J'ose vous dire bonsoir à tous, en tout cas pour ceux qui arrivent maintenant. Donc on avait, avec Cédric, pensé qu'après ces quatre tables rondes très denses sur des thématiques qui couvraient différents, évidemment pas tous, mais différents aspects du monde privé des ouvriers, il était intéressant de convoquer un certain nombre d'acteurs de cette sociologie à discuter de manière, cette fois non plus à partir d'exposés thématiques, mais de leur poser à chacun deux ou trois questions, en appelant évidemment, je le dis, des réponses relativement concises pour que sur chacune des questions, pour que ensuite on puisse aménager un dialogue sur deux aspects, trois aspects qui nous semblaient avec Cédric vraiment être des enjeux très très concret et très contemporain dans la recherche en sciences sociales et qu'on pouvait tirer comme des fils de manière très directe du monde privé des ouvriers. Alors, en fait, il y a donc quatre intervenants autour de la table que je remercie très vivement d'avoir accepté de venir depuis le fond Annie Colovald, Yasmine Ciblot, Florence Weber et Nicolas Renaï. Et à ces quatre personnes, et Olivier, avec toujours ce droit à la parole et ce droit au silence, on avait souhaité vous poser trois questions, et de nous demander, voilà, de donner votre positionnement en tant que chercheur, mais aussi évidemment en tant que directrice, directeur de recherche et personne aussi qui organise et qui font vivre le monde de la recherche en sciences sociales aujourd'hui. Voilà. Donc là, les trois questions, c'était d'abord de se demander, alors de manière très simple, c'est quoi, comment étudier le privé, quelles sont ses résonances dans ce que vous faites, dans ce que vous encadrez, dans ce que vous voyez. Donc la question du privé, d'y revenir, d'en dire un mot. Voilà. L'autre question était là une question qui tient plus aux formes de socialisation des jeunes chercheurs, on va dire. Ça a déjà été abordé, notamment à travers la question de la durée de l'enquête. Pour le dire simplement, et ça sera sans doute trop simple, mais d'après votre expérience, d'après ce que vous savez, ce que vous voyez des conditions de socialisation des jeunes chercheurs, dont on sait à quel point elles sont sous beaucoup d'aspects problématiques, ce genre de livre, celui dont on parle aujourd'hui, est-il encore possible ? Est-il encore souhaitable, mais surtout, est-il encore adapté, est-il encore envisageable, simplement, est-il possible? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, et là qui va ouvrir, et j'espère là vraiment qu'on pourra ouvrir le débat avec la salle sur cet enjeu-là, tellement il est à la fois alors central dans l'ouvrage, même s'il n'y a pas eu de table ronde qui a été consacrée, même si tu en as dit un mot en lien avec ton passage au Parti communiste français, et puis c'est ce moment de déprise quand tu as commencé cette recherche, au fond, c'est la question des conditions de politisation, des conditions et des formes de politisation des classes populaires aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose pour donner peut-être pas du rythme, mais pour pouvoir avoir plus de légitimité à vous couper dans les éventuels tunnels que vous pourriez engager, c'est de prendre ces questions séparément et donc de me répondre d'abord sur la question du privé peut-être, et puis de faire un deuxième tour de table et puis un troisième tour de table. Et dans les interstices, la démocratie s'exercera avec un retour vers la salle. Voilà, merci beaucoup. Je propose qu'on commence par Annie Colovald et puis qu'on suive. Alors, sauf si vous ne le souhaitez pas, mais...
Non.
Oui, alors on y va.
Il en faut une qui commence.
Il en faut une, et c'est
que ça soit moi. On aurait peut-être aimé avoir les questions avant parce que je n'étais pas du tout prévu sur... bien. Étudier le privé. Alors, ça dépend comment en fait on le prend. Moi personnellement, sur mes travaux, en fait très peu, sauf sur le problème des lectures et du rapport donc aux lectures. Mais si on analyse la politisation, bon, par exemple, venir sur le privé ou plus exactement venir sur les groupes primaires comme Olivier l'a fait, notamment sur la famille, mais aussi il y a le groupe des voisins, le groupe des amis, etc. C'est conçu comme des lieux centraux de la naissance ou de la formation ou du rapport à la politique. Donc c'est de plus en plus fait, et les travaux actuels qui renouvellent un peu le genre sont des travaux effectivement ethnographiques qui portent sur les mécanismes informels de la politisation des groupes populaires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parfait.
Donc, moi aussi un peu prise de court par la question, mais...
Par la première, les deux autres ont été plus ou moins...
Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que donc, dans le champ des recherches que je fréquente le plus, à savoir les recherches sur les classes sociales, pas seulement les classes populaires, il me semble que cette question du privé n'est pas forcément posé comme tel, mais le souci de prendre en compte, c'est Pierre Gilbert qui avait cette expression tout à l'heure d'analyser les classes sociales sur leurs deux jambes avec à la fois les modes de vie et le travail et l'interaction entre les deux. Je pense que c'est maintenant un acquis de la sociologie des classes sociales qu'on doit à différents travaux, notamment le monde privé des ouvriers, mais pas seulement. Et donc il me semble qu'il y a beaucoup de travaux de jeunes chercheurs qui enrichissent sans cesse cette approche et qui en montrent le caractère très, très fécond. On peut cependant dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de la sociologie de la famille, comme on l'appelle, avec probablement à tort d'ailleurs, c'est sûrement une catégorisation qui fait du tort à ce domaine de la recherche, puisque ça tend justement à isoler ce qui serait la sphère familiale ou des structures familiales, de tout un ensemble de pratiques qui y sont liées. Et je pense qu'on a encore beaucoup à réinvestir ce champ concernant les classes populaires sur lesquelles on vit avec beaucoup d'idées reçues qui sont dépassées, mais aussi concernant toutes les autres classes sociales sur lesquelles on a, je pense, aussi beaucoup de routines qui demanderaient à être questionnées.
Merci de cette question. Moi, je voudrais juste dire que j'ai toujours été en désaccord avec la catégorie de privé. Donc, je profite de cette occasion pour dire pourquoi. Ça ressemble un peu à ce que vient de dire Yasmine. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce qui, aujourd'hui, est plutôt considéré comme de l'ordre de l'intime et qui n'est pas forcément familial, que moi, j'appellerais plutôt à la fois parenté et care, avec un mot qui est difficilement traduisible, et que ce qui est de l'ordre de l'intime, ça peut être travaillé en ethnographie des classes populaires, mais aussi en histoire, comme on l'a vu avec les travaux de Vivienne Azélizère. On peut même les travailler sur de la documentation, sur des archives. Et donc, il y a vraiment deux façons de prendre, aujourd'hui, je pense, dans les classes populaires, cette question-là. C'est soit une familiarisation avec des univers qui ne sont pas vos univers sociaux, et c'est toujours faisable, même si c'est lourd, ça peut être lourd en temps et lourd affectivement, mais sinon c'est également faisable avec des techniques de distanciation par rapport à son propre univers social, et là il y a des questions de difficulté de la distanciation. Mais quand je disais que je suis pas d'accord avec le monde privé, avec la catégorisation monde privé, comme Olivier le sait bien, c'est qu'il n'y a pas seulement l'intime derrière le monde privé des ouvriers, il y a aussi ce que moi, j'avais appelé le monde du travail à côté, qui est un monde commun, c'est-à-dire qui est un monde hors travail et qui n'est pas forcément un monde ni intime ni privé, et dans lequel on peut s'insérer comme ethnographe de façon parfois plus simple que le monde de l'intime.
Je vais prendre ce micro. Alors, je vais essayer de répondre à la question de manière un peu différente des collègues. C'est-à-dire en reprenant les notes que j'avais préparées pour sans avoir les questions. Alors, oui, ce que je voulais dire, en fait, c'était revenir sur très rapidement sur ce qu'avait fait Nicolas Asfeld ce matin, en rappelant l'espèce de triade Pialou, Ebo, Florence Weber, Olivier Schwartz, autour de la connaissance du monde ouvrier. Comme étant trois piliers. Je pense que ce sont trois piliers, pas seulement sur la question du monde ouvrier, mais aussi sur la méthode. Et pour ce qui concerne Olivier Schwartz, il me semble, et pour essayer de répondre un peu à la question quand même, que la question des portraits qu'il développe, c'est-à-dire des portraits qui sont complètement engagés, où on voit les personnages, où on a on a des chapitres entiers sur quatre personnages, sur un couple, etc., sur une crise de couple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, j'ai pas le mot, mais innovant, me semble-t-il, pour l'époque. Et d'autant plus qu'on ne perd jamais le fil de l'analyse dans le portrait. C'est-à-dire qu'on est dans le portrait, mais on est aussi dans la théorie. Les deux participent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ma manière d'écrire. Et puis sur la question de... Et donc c'est une manière d'enquêter l'intime qui a été ouverte à cette époque-là. Et puis l'autre volet sur la réponse sur enquêter sur l'intime, c'est la question de l'engagement de l'ethnographe. Et ça c'est plus compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un contexte très particulier qui a fait que Olivier, au début des années 80... inscrit au PC, un militant au PC, pas seulement adhérent, militant au PC, tu l'as à peine esquissé, mais va habiter dans une cité, passe plusieurs années à rester dans cette cité, etc. Il y a des conditions de possibilité qui permettent ça. Il y a aussi une formalisation de la thèse ou de ce qu'elle n'était pas à l'époque et de ce qu'elle est aujourd'hui qui ont permis ça. Et puis surtout une sociologie des chercheurs. Je crois que c'est Annie qui évoquait tout à l'heure à la pause clope. La politisation des chercheurs et des différentes générations de chercheurs. Et je pense que c'est évidemment une question centrale, même si je n'ai pas d'éléments à apporter plus aujourd'hui. Mais c'est aussi tout ça qui permet d'accéder à l'intime.
Je peux... Il me faut le temps de la réflexion. Je suis désolée, c'est un peu... bon, voilà, je suis un peu lente. Hein. Voilà. Donc j'étais sur mes groupes primaires. Donc, c'est aussi un point de vue que l'on a, je pense... donc en sociologie, mon politique, c'est de décaler un peu les regards, et on peut comprendre le privé aussi bon, par le collectif, c'est-à-dire l'insertion dans des liens sociaux, des configurations sociales changeantes. On peut faire varier les consciences sociales de soi, les rapports aux autres, les manières de se penser, etc. Et il peut y avoir des effets de lieu sur la manière de se penser et de penser son individualité. Et là, c'est pour répondre un peu au travail d'Olivier et le tien donc aussi. En vous entendant, je pensais à un travail qui a été fait par une jeune chercheuse sur Nantes, donc sur les ouvrières de Nantes. Et dans les années 70, ces ouvrières sont déjà en train, donc les jeunes, hein, jeunes ouvrières, elles sont déjà en train de s'opposer à leur mère, de vouloir une émancipation par le travail, qu'elles vont reconduire dans leur vie privée. Et donc là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas en fait un effet de lieu, c'est-à-dire des différences suivant la configuration politique, intellectuelle, sociale, locale, qui fait de Nantes un lieu très différent du Nord, et donc qui peut en fait produire des différences au sein d'un même groupe sur un plan en fait national. C'est-à-dire que les ouvrières nantaises, on pourrait dire comme ça, ne ressembleraient pas aux ouvrières du Nord pour toute une série en fait de raisons qui sont liées à la configuration très particulière de cette ville-là à ce moment-là. Donc voilà.
Florence, vas-y.
Oui, je voulais juste ajouter dans la droite ligne de ce que tu viens de dire que mon expérience à Montbard dans les années à peu près les années où Olivier travaillait dans le Nord, alors même que c'était la même sidérurgie et c'était la même tradition ouvrière communiste, c'est très différent. Quand on regarde les filles et les femmes sur lesquelles je n'ai pas travaillé, puisque je travaillais sur les hommes, mais que je connaissais très bien, c'était d'abord un univers où elles voulaient toutes travailler. Le chômage des femmes était extrêmement important, le chômage des hommes était bas, parce que la sidérurgie allait encore bien à Montbard à ce moment-là. Et elles étaient 150 pour un poste de cantine, de dame de cantine à l'école. Et donc, elles avaient une vraie aspiration au travail professionnel. Et en même temps, elles avaient des formes de résistance familiale, des résistances au modèle familial très fortes. Des femmes qui avaient mon âge, qui se sont jamais mariées, qui ne voulaient pas du tout rentrer dans le modèle de leur mère. Et du coup, je pense que c'est pas seulement un effet de lieu ou un effet de contexte, c'est aussi un effet de comment on tombe dans telle ou telle famille. Et moi, j'étais tombée dans une famille où il y avait une famille nombreuse où il y avait des jeunes femmes qui étaient totalement en décalage par rapport à ce modèle-là, que je voyais par ailleurs vivre à d'autres âges ou dans d'autres familles. Donc, c'était juste pour mettre un bémol sur cette question d'un modèle féminin de, à l'époque dans, dans ce milieu.
Olivier, une réaction ou sur notamment peut-être ce que disait Florence tout à l'heure ou d'autres points.
Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Non, peut-être juste si paradoxal que ça puisse paraître compte tenu du titre du livre, je pourrais être disons plus d'accord avec toi, Florence, que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que, disons que si on prenait le temps de discuter, si on avait le temps de discuter de manière plus approfondie, les objets auxquels je me suis intéressé dans ce livre, les thèmes auxquels je me suis intéressé, je continue de les estimer pertinents et importants. La question après est de savoir si la dénomination monde privé était la bonne. Et ça je serais capable d'expliquer pourquoi, à ce moment-là, c'est sous cette forme que c'est venu, mais je ne suis pas du tout sûr que c'était la bonne dénomination. Donc on conserve certainement tout plein de différences, toi et moi, de perception sur certaines choses, mais sur la catégorisation, je suis d'accord, ce n'était pas la meilleure. Absolument.
Merci beaucoup. Après ce premier tour, est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect qui émerge de la salle ? Non, absolument pas. Bon, je n'ose pas dire que c'est parfait, mais enfin, disons que ça nous arrange quand même un petit peu à ce stade. Donc, j'aurais quand même un point, parce que sur ce privé, ça recouvre quand même un débat. Je me auto-attribue la parole. Ça recouvre quand même un débat, à mon avis, important et que tu avais soulevé, Florence, dans le compte-rendu croisé que tu avais fait du monde privé des ouvriers avec le livre de Jean-Pierre Terrail. Hein. Tu avançais un point de discussion, mais qui est aussi très, très nettement affirmé dans l'ouvrage auquel Yasmine a contribué, plus que contribué, sur les classes populaires contemporaines chez Armand Collin, c'est-à-dire l'idée d'une individualisation que tu, au fond, si je résume et si je déforme tes propos, je ne doute pas que tu me corriges, donc j'y vais. Tu dis que le livre d'Olivier et le livre de Jean-Pierre Terrail, par d'autres biais, voilà, au fond, vont individualiser une condition qui, si on l'avait observée autrement, on aurait vu le collectif perdurer et on aurait vu cela. Et Yasmine, dans les analyses que vous proposez des classes populaires contemporaines, dans cette grande revue qui n'est pas seulement une revue de littérature, qui est une analyse synthétique au fond de cette condition, secteur de la société ou pan de la vie sociale par pan, puisque vous faites une analyse, les chapitres sont organisés autour des grandes formes de socialisation, il y a quand même cette idée que vous reprenez, mais là plutôt à l'habilitation d'Olivier, de l'extraversion qui n'est pas l'individualisation, mais qui induit quand même une modalité de rapport au monde social qui n'est plus celle d'un ancrage aussi systématique et aussi clos qu'on pouvait le trouver dans le monde et dans le modèle hogartien. Et donc, au fond, la question de la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans le privé ou derrière les réinvestissements qu'on peut faire de catégories proches du privé un questionnement sur les représentations et la réalité d'une classe qui s'est alors individualisée du point de vue de ses représentations, de sa conception d'elle-même et ou en partie de sa réalité sociale. Donc ça, c'est une question que je remettrai, mais qui me semble importante, notamment quand on va aborder la question de la politisation, parce que la politisation, elle peut être dépendante et du regard et de la réalité sur lequel on fait porter ce regard. Mais le deuxième point sur lequel je voulais vous interroger, parce que je crois que ça sera vraiment un enjeu majeur, Nicolas a commencé à en dire un mot, c'est sur le type de travail, le type de livre dont on parle et les conditions de socialisation. Alors ça, je suis sûr de vous avoir posé aux uns et aux autres la question à un moment donné dans des discussions qu'on a eues. Donc sur le rapport entre ce livre, le type de démonstration qu'il propose et les conditions de socialisation actuelles des chercheurs. Et au fond, est-ce que ce type de livre est encore possible Et si oui, pourquoi et comment? Et sinon, pourquoi et comment? Et faudrait-il y remédier? Voilà. Et alors pour rétablir une symétrie, je vais donner la parole à Nicolas.
Alors, quitte à griller mon temps de parole, merci Nicolas, je vais faire peut-être un tunnel, je ne sais pas, mais je vais dire ce que j'avais préparé, parce qu'en fait, ça correspond totalement à la question. Donc, je vais essayer de faire en sorte que... Alors, juste pour finir ce que je disais tout à l'heure sur les portraits, je pense qu'il y a un très bon texte de Stéphane Beau, qui est connu de tous, là, sur l'entretien ethnographique, juste pour rappeler la première partie du texte, qui permet, pour ceux qui n'ont pas discuté avec des sociologues qui travaillent dans les années 70, de se rendre compte des conditions de travail de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnographie à cette époque-là. C'est-à-dire, en gros, c'est le bricolage, quoi. Tout simplement parce que le fait d'enquêter de manière qualitative ou directe, c'est complètement dominé dans la sociologie de l'époque. Ça n'est pas du tout. Et donc, on bricole. Et en fait, ce que nous propose notamment Olivier avec ses portraits, loin des postures interactionnistes ou ethnométhodologiques ou aujourd'hui d'anthropologie narrative, c'est des personnes qui ont de la classe, c'est-à-dire des personnes qui ont une classe sociale. Quand on voit les personnages, ils ont une classe. Donc je retourne intentionnellement le jeu de mots de l'article de Florence qui commente notamment Olivier Terrail, mais aussi Retière. Pour aller un peu plus loin sur essayer aussi de sortir, enfin on a peu évoqué les relations interclassistes aujourd'hui et les groupes sociaux qui sont en interaction ou pas avec le monde ouvrier, y compris les intellectuels bien sûr. Alors sans sacrifier à une nostalgie structurelle, il me semble quand même que quand Olivier Schwarz enquête au début des années 80, il est juste après une forme d'apogée dans la sociabilité populaire. Alors, au travail, on l'a beaucoup vu à travers Durand, Qu'un sable sous le capot, ou Corrouge, quand il raconte les évolutions avec Pialou de l'ambiance dans l'atelier, et la casse avec le toyotisme, etc. Dans mes enquêtes, je l'ai aussi vu du point de vue des sociabilités, c'est-à-dire que les années 70, c'est aussi le moment où toutes les politiques de patronage se cassent la figure. Et donc, elles sont réappropriées, pas seulement par les ouvriers, mais par les salariés, grosso modo, des usines. Et donc, ça devient des lieux où on s'implique et qui n'est plus le lieu du patron. Le cinéma du village, le club de foot, etc., où le patronage disparaît et où on s'implique et où il y a une forme de centralité ouvrière. Et dans ces années 80, c'est cette centralité ouvrière qui disparaît, enfin qui est remise en question. Et pour reprendre encore la discussion autour du qu'avait entamé Florence à l'époque sur l'individualisation ou la privatisation du monde ouvrier, avec le recul, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas eu privatisation à ce moment-là du monde ouvrier. Ça a été une forme de réaction à cette moindre centralité du monde ouvrier peut-être, mais privatisation ne veut pas dire individualisation. Et ce que j'entends par là, c'est, par exemple, enfin, j'ai en tête la thèse de Benoît Coquart, qui a soutenu il y a peu de temps à Poitiers, qui enquête sur des jeunes ruraux de Haute-Marne. Donc je ne vais pas raconter la thèse, rassurez-vous, vous irez la lire. Mais en gros, ce qu'il raconte, c'est comment l'espace intime, l'espace domestique des ouvriers et des classes populaires, parce que ce ne sont pas que des ouvriers, devient l'espace des bandes, devient l'espace des clans. Et donc, ce qui ne se fait plus dans les cafés, ce qui ne se fait plus au foot, ce qui ne se fait plus dans toutes les formes instituées de sociabilité appropriées par les classes populaires, se fait dans l'espace privé, qui est, de fait, un lieu collectif. Et donc, ça répond un petit peu aussi à la question de la socialisation des jeunes chercheurs à l'ethnographie. Évidemment, c'est possible. Après, c'est des conditions... je pense qu'il y a une attention énorme à avoir en tant que directeur de thèse, quoi. C'est-à-dire... engager aujourd'hui, vu l'état du marché du travail et la masse de thèses en sociaux qui sont faites des jeunes chercheurs en sociologie, il faut faire vraiment très attention. Mais par contre, il y a des conditions de possibilité. Le fait de commencer la thèse, pas forcément thèse, mais en M2, voire en M1, c'est-à-dire de suivre des étudiants au long cours pour pouvoir continuer sur une lancée.
Ben peut-être moi je réponds effectivement d'emblée à la question de est-ce que ce genre de livre est encore possible aujourd'hui. Moi, ce qui me semble, c'est que l'ethnographie engagée, comme l'a faite Olivier, comme j'ai pu la faire moi à la même époque, parce que de ce point de vue, je nous pense très proche du point de vue de la méthode, c'était pas seulement une question de temps et pas seulement une question de... Enfin, c'était beaucoup une question de liberté intellectuelle et c'était aussi une question de prise de risque. C'est-à-dire qu'aller faire de l'ethnographie, dans les classes populaires ou pas d'ailleurs, c'est prendre le risque de découvrir des choses qui ne conviennent pas au milieu académique au moment où on veut les publier. Et j'ai plusieurs exemples de gens qui ont abandonné leur thèse d'ethnographie ou qui... n'ont pas réussi à convaincre en sortant de l'ethnographie parce que ce sont des terrains où, au fond, les ethnographes sont plus découvreurs que lorsqu'ils font d'autres types de recherches. Donc ils s'inscrivent moins, ils sont plus innovants, on va dire, ils s'inscrivent moins dans des débats académiques. Et du coup, ils prennent des risques très, très forts. Et aujourd'hui, je pense que... je ne décommande pas complètement ces risques, mais je suis quand même obligée de concevoir à quel point la prudence académique est devenue une règle impérative. Et je ne sais pas pour Olivier, mais moi, je n'avais aucune prudence académique. Et c'est un privilège énorme que je devais à la période, au fait que j'étais normalienne, au fait que de toute façon, j'étais agrégée et que je pouvais repartir dans le secondaire. Et je m'en fichais complètement. Et c'était quand même extrêmement... comment dire, c'était libérateur par rapport au refus de ce que je disais qui me sont arrivés de fait à certains moments de la part de certains univers académiques bien sûr, etc.
On remonte Yasmine.
Pour ma part, je vais commencer par dire que je me suis formée à la sociologie, au travail de terrain, en lisant, entre autres choses, mais notamment de très près, les trois livres, Nicolas dit la triade, dont il a été question sur le monde ouvrier, hein, donc celui de Stéphane Beau et Michel Pialou, et vos deux livres, et j'ai été vraiment très, très marquée par ces lectures, et autant par la richesse et l'ampleur des enquêtes que vous avez menées, que par la force et, bon, si on veut reprendre le terme de Nicolas Hatzfeld ce matin, l'audace des analyses théoriques. Et je suis toujours à ce jour impressionnée par l'ampleur de ces enquêtes et la force et l'originalité des analyses et du travail de théorisation qui est porté dans ces livres et d'autres livres. Il y en avait d'autres de cette période qui m'ont beaucoup marquée. Et donc, sans être très longue, je pense qu'on peut... quand même pas faire l'impasse sur la question du temps et des conditions de réalisation des thèses aujourd'hui, pour se dire que c'est difficile de reproduire ce type de recherche aussi originale aujourd'hui. Je pense quand même que les contraintes de temps, de financement, etc. sont beaucoup plus fortes. Bien sûr, et bien heureusement, il y a encore des gens qui réussissent à faire des thèses de cette ampleur et de cette richesse, ou des recherches en dehors de leur thèse de cette nature. Et il faut tout faire pour permettre ce genre de recherche de continuer. Mais c'est quand même pas si facile. Je pense que les conditions sont bien différentes. Et je suis assez sensible à ce qu'a dit Florence, parce que je le ressens aussi très fortement. Les conditions du débat intellectuel sont quand même aussi très différentes. Et je pense pas que pour des mauvaises raisons, peut-être aussi un peu pour des bonnes raisons. Les discussions théoriques sont finalement moins nombreuses. Prennent moins de part dans les recherches aujourd'hui, un petit peu aussi pour des bonnes raisons. Hein. Quand on lit certains travaux de cette époque, on se dit que peut-être plus d'attention aux matériaux n'aurait pas nuit. Mais c'est aussi pour des mauvaises raisons, du fait qu'on s'interdit aussi tout un ensemble de débats, de prises de risques. Alors, tout est relatif, c'est pas si risqué que ça, mais en tout cas, de s'exposer, Et c'est pas si facile, en tout cas, quand on essaye de le faire, on se fait vite remettre à sa place. Enfin, je trouve que c'est aussi une évolution assez dommageable du milieu, qu'on peut contribuer peut-être plus facilement que la question des contraintes financières et de temps à faire évoluer dans un bon temps, dans une bonne direction.
Oui, c'est vrai que la situation, je pense, a
vraiment changé mon du tout au tout. Les règles sont nettement plus fortes, s'imposent plus lourdement. En même temps, du point de vue de la méthode ethnographique, moi, ce qui... encore une fois, ce n'est pas une méthode que je privilégie, moi. Mais des étudiants le font. Et je trouve que c'est devenu une méthode un peu routinisée, quoi. On dit, voilà, je fais de l'ethno. Et ce n'est plus du tout sur le mode sur lequel tu as pu le faire ou Florence a pu le faire, c'est-à-dire une insertion longue dans un milieu... étranger, où il faut se familiariser, etc. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est que, donc la référence à l'ethnologie, c'est, j'ai fait 5 entretiens de façon ethnographique, et je suis allée une semaine sur le terrain, et j'ai vu, donc c'est un tout petit peu, en fait, irritant, mais en même temps, c'est lié aussi à des contraintes, sûrement. Il y a aussi cette volonté de plus en plus de croiser en fait les méthodes, et je pense que ça c'est une très bonne chose. L'ethnographie bien faite c'est très intéressant, mais ça comporte des points aveugles. Tout comme une autre méthode. Et quand on regarde par exemple le rapport aux politiques, je suis désolée, je suis un peu obsessionnelle, de ne pas faire de stats, par exemple, de ne pas avoir recours à l'histoire pour repérer les grandes transformations objectives et subjectives, pour comprendre la situation donc, actuelle, ça pose des problèmes, parce que ça masque des choses qui sont extrêmement importantes. Me semble-t-il, je pourrais revenir après. Je pense qu'il y a nécessité de croiser en fait les méthodes, d'éviter de dire que l'on fait de l'ethnographie alors qu'on fait de l'observation rapide de certains milieux. Voilà, ça ira mieux. Mais c'est vrai que la situation dans laquelle les plus jeunes sont impliqués est vraiment très dure. Il y a des queues d'attente, il y a des exigences folles. Il faut qu'ils fassent un projet alors qu'ils ont 3 ans. Il faut qu'ils commencent à enquêter à 5 ans. C'est toujours avant, avec des productions donc massives. C'est vrai que c'est désolant.
Je voudrais juste revenir sur les conditions actuelles de conduite d'une thèse. Pour ma part, j'ai fini ma thèse en 3 ans et demi, mais j'avais un contrat doctoral de l'époque sans monitorat. Et je pense que l'enseignement devrait être considéré, quand on enseigne et qu'on fait sa thèse et qu'on rédige sa thèse, ça devrait être considéré comme un emploi salarié, et donc on devrait avoir droit aux 6 ans auxquels maintenant, grâce au nouveau contrat, les doctorants avec emploi salarié ont droit. Donc je pense qu'on pourrait porter cette revendication.
Oui, juste peut-être un complément à la question, et d'abord pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Annie, sur l'usage très problématique du terme ethnographie et ethnographique, plus encore comme label de qualité qui ne permet pas de saisir ni l'intérêt de la démarche et ses limites, par ailleurs. Juste une question de prolongement. Une partie d'entre vous ont réalisé leur thèse à partir d'une démarche ethnographique. J'imagine que la plupart d'entre vous ont connu les difficultés pour répliquer ce type d'enquête une fois installée, parce que j'ai l'impression qu'en thèse, c'est encore possible de réaliser ce type de démarche, mais comment faire par la suite, dès lors qu'on lui accorde beaucoup de crédit? On peut bien sûr faire des enquêtes de qualité en utilisant d'autres méthodes, mais qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Je sais que Olivier est engagé dans une démarche de très très longue durée d'enquête sur les personnels, les conducteurs de bus. Certains autres chercheurs ont pu en réaliser, comme Jean Penef à l'hôpital, plutôt en se mettant de côté d'un ensemble de tâches administratives et d'organisation collective de la communauté, probablement. Où est-ce qu'on doit se résoudre à mener des petites enquêtes ethnographiques, et dans ce cas-là, faut-il les appeler encore comme ça, c'est-à-dire quelques semaines ou de manière épisodique, ou enfin à travailler de manière collective? Mais on voit bien par exemple que l'enquête que tu as menée est difficilement réalisable collectivement sur ce terrain-là.
Voilà.
La thèse est souvent un point de départ, mais là, en l'occurrence, des difficultés à faire du terrain. Donc là-dessus, est-ce que quelqu'un veut réagir ou, voilà, je...
Juste, Cédric, je pense qu'il y a vraiment une réflexion collective à mener. C'est-à-dire que dans un labo, quelqu'un qui fait de l'ethnographie, ça veut dire que pendant 2, 3 ans, 4 ans, enfin ça dépend, il est out. On ne peut pas compter sur lui pour quoi que ce soit. S'il fait vraiment le boulot, s'il fait vraiment... ou alors, effectivement, c'est un travail à la Olivier ou PNF que tu racontes, de longue durée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être intensif sur 2, 3 ans, on va prendre un travail, donc, enfin, faire une ethnographie sur 5, enfin, plusieurs années de manière intermittente, quoi. Et là, il y a une vraie réflexion collective à mener, quoi. C'est-à-dire que pourquoi c'est toujours les mêmes qui font le travail administratif, pourquoi c'est toujours les mêmes qui font en termes d'enseignement pour les enseignants-chercheurs, quoi. Comment faire en sorte qu'on puisse consacrer un certain temps. Voilà, c'est aussi peut-être une revendication politique à mener de la profession.
Excellente transition vers la troisième et dernière question. Sur la politisation des catégories populaires, des classes populaires, je vais parler ce langage-là, plus celui de la classe ouvrière. Ici, il y a nombreuses thèses en présence, nombreuses discussions, mais quand même, quand on regarde la conclusion du monde privé des ouvriers, les dernières phrases, elles se situent quand même si l'ensemble de la démarche se situe dans la sphère... Tu mets à distance le mouvement social, le mouvement ouvrier, en même temps que le travail, en disant voilà, c'est ça que la sociologie ouvriériste a regardé, et moi je vais regarder autre chose. L'horizon du travail est quand même de dire qu'à un moment donné, si on veut que ces frontières de genre se soient limitées, si on veut éviter ces écarts, il va falloir que les ouvriers puissent entrer dans tous les lieux de la société. Donc il y a quand même un horizon qui est politique dans la recherche et dans un contexte où la cité des îlots, elle est de part en part politisée. Et alors là, simple, la question, et là je vais donner la parole à Nicole Oval, on va revenir dans ce sens-là, mais il y a un certain nombre de réflexions sur la dépolitisation, sur les transformations des formes de politisation des catégories ouvrières. Il y a d'autres thèses qui avancent l'idée d'une surpolitisation de ces catégories. Alors comment vous vous situez par rapport à ça et comment ça infuse les travaux que vous pouvez mener, lire, regarder, voilà. Ou votre sentiment là-dessus.
Surpolitisation, c'est-à-dire la radicalisation à droite, c'est ce que vous voulez dire, les débats qui porteraient sur... Oui, le problème de l'analyse de rapports des classes populaires aux politiques, ça a toujours été un enjeu chaud. Déjà dans les années 60, avec les ouvriers qui votaient donc à droite, ça donnait lieu à de multiples débats sur les raisons pour lesquelles ils votaient à droite. Donc c'était leur enrichissement, leur bourgeoisement. Maintenant, c'est la radicalisation à droite, voire à l'extrême droite. Donc c'est vrai que c'est un enjeu chaud. Donc c'est politique et intellectuel, ce qui pose un problème de mise à distance pour faire une analyse relativement juste de ce qui se passe. Alors que dire, il me semble que cette idée d'une radicalisation à droite des classes populaires vient des commentaires fondés sur des sondages qui sont répétés à foison par les hommes politiques, la presse, etc. Or, comme le montre Le Hing dans ses travaux sur les sondages, ce qui règne, normalement, c'est la grande méconnaissance que l'on a en fait des électorats. Il y a des différences entre sondages tels qu'on ne sait pas ou on ne sait plus, alors qu'on savait à peu près dans les années 60, avec les travaux de Michel Simon, par exemple 60-70, où étaient les jeunes, enfin quelle était leur orientation, les plus vieux, les classes populaires, les classes supérieures. Maintenant, on n'en sait strictement rien. Il y a des différences très fortes donc entre sondages qui disent tout est leur envers, hein, et ensuite qui fonctionnent sur les votants et pas sur les inscrits. Et donc, qui disent, ben voilà, c'est le Front National qui est le parti donc majoritaire chez les classes populaires. Or, c'est faux. Et c'est depuis les années, en fait, 45 avec Lazarsfeld, qu'on le sait. Ce qui règne en premier, c'est la grande indifférence de ceux qui ont moins de capital culturel et moins de sentiments de dignité bon, pour s'autoriser à avoir une opinion sur la politique. Mais hein, donc, ce qui règne, c'est l'abstention très massive et c'est celle-ci qui augmente. Si à mesure à s'intéresser donc, au rapport des classes populaires à la politique, c'est sur cette abstention qui grimpe, mais de manière... très forte, aussi bien abstention électorale que l'abstention dans tous les lieux d'engagement. Si l'on regarde les productions de l'INSEE, on en a discuté avec Olivier tout à l'heure, même si lui trouve dans votre enquête ANR qu'il y a des classes populaires qui sont dans les associations de loisirs, bon, etc., ce que montrent les travaux de l'INSEE, c'est la forte abstention des classes populaires dans les associations sportives, de parents d'élèves, où elles étaient en fait présentes avant. Donc c'est surtout sur ça, en fait, qu'il faut... mais donc, il faut aller voir un peu comment ça marche. Je continue un tout petit peu. Ce qui m'a, en fait, intéressé avec le travail d'Olivier, qu'on avait été, Savicky et moi, sollicités pour le numéro de Top Politics sur le populaire et le politique. On venait de lire son ouvrage. Donc, voilà, et on se disait, oui, on va voir quelque chose, super. Donc, il nous a fait... un article, alors que le rapport à la politique, c'était pas du tout une question qui t'avait en fait intéressé dans le livre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu as dit aussi, c'est ce qui t'a intéressé, c'est le travail, enfin analyser la subjectivation des conditions de vie chez les classes populaires. Et ça, c'est ce qui nous avait en fait intéressé, c'est ce qu'on retrouve dans ton analyse que tu nous as faite donc à Politique, ça. Alors, il y a plein de choses amusantes, je trouve, parce que tu les lis de l'intérieur, donc les classes populaires deviennent très concrètes, vues de l'intérieur. C'est quand tu viens sur l'abstentionnisme, on se dit, avec le recul, 25 ans plus tard, normalement, ça devrait être massif. Mais là, en fait, ça passe un peu à la trappe. Hein. Donc, bon, il y a des abstentionnistes. Et là, ce que tu montres très bien, c'est... la différence de rapport à l'abstention qui peut en fait exister entre celui qui est fondé sur le très fort éloignement à la politique et l'autre rapport qui est fondé sur l'hédonisme. Ça, c'est quelque chose que les politistes n'ont pas réussi à mettre en avant. Et toi, ça, tu l'apportes. C'est-à-dire ceux qui pensent, bon, ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie à faire de la politique alors que je peux m'en sortir seul. Ça, c'est très amusant, enfin, c'est très, très imaginatif, je trouve. Et l'autre, qui prend en fait une dimension très importante à l'heure actuelle, c'est quand tu viens sur les citoyens donc ordinaires, et tu dis, ben voilà, ils ont une identité de classe, ils s'identifient à la classe, mais c'est pas du tout en fait une identité légitime qu'ils revendiquent en public, ils la revendiquent en privé, voire même ils incitent leurs enfants à la dépasser. Et ce qu'on peut se demander là, comme hypothèse, voilà, c'est une question que je te pose parce que je la trouve amusante, est-ce que la transformation de la subjectivité chez les classes populaires n'a pas en fait précédé la transformation des conditions objectives dans lesquelles elles vivaient ? Bon, puisque tu écris, tu as fait l'enquête dans les années en fait 80, c'est-à-dire avant la montée du chômage, avant la déstructuration du Parti communiste, et pourtant... ils ont cette identité subjective, cette identité de classe qui les pousse à la dépasser. Or, à l'heure actuelle, c'est cette identité-là qui est en train de s'effriter. C'est-à-dire, on peut prédire, enfin, on pouvait en fait le faire, bon, prédire les votes en fonction de l'identité de classe et non pas l'appartenance de classe. Le fait de dire, voilà, moi je suis ouvrier, j'appartiens à la classe ouvrière. Or, cette identité de classe, elle s'effrite depuis les années 60. Si on suit les travaux de Michelin, Simon, je crois que dans les années 60, les ouvriers les plus intégrés, c'est-à-dire qui avaient deux attributs, ils étaient ouvriers, leur père était donc ouvrier ou leur femme est ouvrière, voilà, avaient autour de 65% une identité de classe. Ils sont autour de 15% à l'heure actuelle. Ce qui permettrait en fait de comprendre l'éclatement en fait des votes, qui, or toi, tu l'as mise en évidence, si je peux dire, assez tôt. Donc voilà, c'est une question que je voulais te poser sur est-ce qu'il y a une transformation subjective avant les transformations des conditions objectives de vie, ce qui serait quand même étonnant. J'ai le droit de poser une question.
C'est compliqué. C'est non, mais je reconnais que c'est compliqué comme question. Mais peut-être, je reviens un tout petit peu en arrière avant de revenir à ta question, Annie. C'est compliqué pour moi de répondre. Au fond, un tout petit peu en arrière, puisque tu as tendu une perche tout à l'heure, Nicolas, sur la discussion critique que Florence a développée dans son article de jeunesse par rapport à Terrail, par rapport à mon livre. Et au fond, c'est pas que je sois pris d'une et puis après du coup peut-être ça me permettra de venir à la question que tu soulevais, Annie. C'est pas que je sois pris d'une montée de centrisme, encore que je suis de plus en plus centriste de fait, mais très profondément je crois que nous avions tous les deux raisons. Et d'abord, la chose que j'ai envie de dire à Florence 20 ans après, comme on dit, c'est que il y a des objections que tu fais dans le texte à l'égard de mon livre, Jean-Pierre Terrail, bon, ben, ça, il répondra un autre jour s'il veut, mais que je n'ai vraiment pas oublié et que je considère comme essentiel, qui ne m'empêche pas de penser, j'y viendrai après, que j'ai pas rêvé, voilà, mais il y a en tout cas deux questions que tu pointes, que tu formules dans le texte, sur lesquelles je pense que tu avais absolument raison. Enfin, je les reformule à ma manière. La première, elle concerne le présent sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire est-ce que les choix d'objets, de thèmes que j'ai faits ne m'ont pas conduit à sous-estimer finalement très fortement la vitalité d'une sociabilité ouvrière et populaire, et notamment de tout un environnement social dans lequel baignaient les familles et les enquêtés auxquels je m'intéressais. Donc cette question-là, elle concernait le présent, finalement. Et là, alors là, la réponse, très clairement pour moi, elle est oui, effectivement. C'est-à-dire que j'ai très largement laissé ça de côté, et trop laissé ça de côté. Et la deuxième objection que tu fais, sur laquelle, je ne suis pas certain que la réponse à l'objection que tu ferais serait positive, mais en tout cas, je crois que tu as absolument raison de l'avoir faite. C'est au fond, est-ce que je n'ai pas construit une représentation du passé ouvrier et du passé des classes populaires très schématiquement ou trop schématiquement, comment pourrait-on dire, communautariste, mettons, hein, pour aller vite, qui me permettait ensuite d'opposer à cette représentation du passé un présent qui se caractériserait par une montée de l'individualisation? Et est-ce qu'au fond, est-ce que, comme tu le disais dans l'article, est-ce que, plutôt que de dire que les choses mêmes ont changé, est-ce que ce n'est pas le regard qui a changé? Est-ce que, au fond, si on regardait un peu autrement le passé des classes populaires et du monde ouvrier, on n'y trouverait pas déjà des formes d'individualisation ou de familialisme dont je supposais qu'elles étaient récentes? Et pour citer à nouveau Michelet, bon, l'importance du foyer, de la famille, il y a quelques très belles lignes sur les rideaux, par exemple, bon, qui iraient tout à fait dans ton sens. Ça, ces deux questions-là, moi, je considère que là-dessus, tu avais raison. Alors, ce que je pense en même temps, c'est pour ça que je dis que je pense qu'on avait tous les deux raison, et c'est pas par centrisme, c'est que je pense en même temps que, sous des formes qui peut-être n'étaient pas complètement adéquates, et en particulier, je le redis, sur la catégorie même du privé, je ne sais pas si c'était la bonne, mais je pense que j'ai essayé de décrire, et je pense que c'était le cas de Terrail aussi, mais j'ai essayé de décrire des phénomènes, des évolutions, des transformations sur lesquels je pense quand même que je ne rêvais pas. C'est-à-dire, d'une part, au fond, deux types de phénomènes, pour aller vite, et peut-être que du même coup, ça pourrait constituer voilà, un élément de réaction à Annie. D'une part, il me semble que j'assistais quand même aux deux extrémités de la hiérarchie sociale au sein même du monde ouvrier que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire les familles d'une part en ascension et d'autre part les familles précarisées. J'avais vraiment le sentiment d'assister là à des prises de distance sur la base de logiques très différentes, mais des prises de distance très fortes par rapport à la communauté, par rapport à la sociabilité environnante, si tu veux, avec des formes de fermeture très fortes. Du côté des familles les plus précaires, un repli très très fort sur, pas chez toutes, mais chez une partie d'entre elles, un repli très très fort sur, pour le coup, sur le logement et sur, on peut appeler le privé, peu importe, mais sur le logement et sur la famille. Et du côté des familles en ascension, également une coupure de plus en plus fortement affirmée par rapport à une sociabilité environnante perçue comme dangereuse. Et de fait, si tu veux, nous ne nous connaissions pas, Terraille et moi, quand on a publié nos deux livres, on s'est rencontrés après, mais ça m'a toujours frappé que lui disait, au fond, pour réussir l'ascension sociale, l'une des règles fondamentales des familles, c'est s'enfermer pour s'en sortir, et c'est les mêmes mots qui me sont venus, en fait. Voilà, alors là-dessus, d'une part, et d'autre part, ce sur quoi il me semble que je ne rêvais pas, alors après, toute la question est-ce que je les ai nommés comme il fallait, voilà. Mais l'autre phénomène sur lequel il me semble que je ne rêvais pas, c'était des formes quand même, des formes d'affirmation de plus en plus fortes d'un jeu par rapport à un nous, dont j'ai retrouvé alors ensuite, mais ça c'était après pour le coup le livre sur, sur le Nord, dont j'ai retrouvé à plusieurs reprises ensuite des manifestations quand j'ai commencé à travailler plus sur le monde du travail, par exemple les conducteurs de bus, bon, dans le rapport à la grève, au collectif, bon, tout ce qui est injonction venant des leaders syndicaux ou des anciens disant « demain on fait grève, point », ne passe plus. Et désormais, c'est même si on sait bien sûr que rien n'est jamais individuel et que tout est socialement déterminé, ce qui est alors complètement clair pour moi, mais ce qui fait norme, en tout cas chez les conducteurs de bus que je connais, c'est chacun décide comme il veut. Bon, donc je faisais référence à des phénomènes de ce type-là. De même, si tu veux, Tristan Poulaouec, bon, je crois qu'on est plusieurs à le connaître, c'est observé que les familles ouvrières, il y a une véritable montée de la proportion dans les familles ouvrières sur l'orientation des enfants qui disent « il fera ce qu'il voudra bon. ». Et donc voilà, alors après, toute la question, et c'est là-dessus pour laquelle, c'est la raison pour laquelle vraiment je le dis très sincèrement, les objections que tu as faites à ce livre, pour moi, sont des objections très sérieuses. Toute la question, c'est est-ce que j'ai décrit ça, est-ce que j'ai pensé ça avec la prudence qu'il fallait, est-ce que c'est pas autrement, bon. Mais sur les phénomènes même, sur les sur les faits, sur ce qui était en train de se passer, voilà, là c'est le point sur lequel je pense pour le coup ne pas m'être trompé. C'est la raison pour laquelle je pense que on avait raison tous les deux, voilà. Alors avant de te laisser réagir à ce que je dis, Florence, parce que peut-être tu seras pas d'accord, mais voilà, peut-être que du coup ça pourrait constituer une manière pour moi de réagir à la question que tu soulevais, Annie, c'est-à-dire que en fait je pense que ce phénomène d'affaiblissement de l'appartenance, j'ai eu le sentiment effectivement d'en voir des manifestations, déjà des prodromes assez forts, mais en fait, dans l'univers social que j'avais sous les yeux, je ne dirais pas que qu'il a précédé, qu'il a complètement précédé les évolutions dans les conditions objectives. Je pense que, enfin, sans doute, il les a en partie précédées, mais il est le produit quand même. Et je sais bien que ça ne te choquera pas intellectuellement, voilà, que tu préférerais entendre ça. Voilà.
Non,
mais voilà.
Non.
Mais c'est ce que je pense. En l'occurrence, je pense que ces évolutions dont j'essayais de plaider face à Florence, la réalité, elles sont liées à ces deux phénomènes que, me semble-t-il, j'avais sous les yeux dans le Nord, c'est-à-dire, d'une part, la constitution d'un pôle de famille montante qui se protégeait, se préservait très fortement de la sociabilité environnante qu'elle percevait comme dangereuse, et de l'autre, un pôle de famille précarisé qui, pour toute une série de raisons, sur lesquels je ne veux pas entrer vu l'heure, se repliait de plus en plus. Et j'ai l'impression que ce sont les deux éléments, alors il y en a eu d'autres après, mais qui ont contribué à... qui ont amorcé, en tout cas, dans cette région-là, la décomposition ou l'affaiblissement de la collectivité ouvrière, si tu veux. Donc, il y a bien, de ce point de vue, pour moi, il y a bien eu une précédence de phénomènes objectifs par rapport aux évolutions de mode de vie et d'identité qui me semblait que j'avais sous les yeux. Voilà. Mais je ne sais pas si je te... Voilà.
Je propose qu'on finisse le tour de table et puis peut-être qu'on te laisse, Olivier, le mot de la fin ensuite, si tu le souhaites. Yasmine.
Pardon, Yasmine, excuse-moi. Donc je vais être brève, hein, mais je voulais moi aussi évoquer le texte que Annie Colovald et Frédéric Savicky avaient demandé à Olivier pour ce dossier de politique de 91. Moi, j'ai lu tout ça quelques années après, en même temps que le livre. En fait, j'avais lu le texte un peu comme une annexe du livre, qui n'est pas, hein, mais qu'on peut lire aussi de cette manière-là. Et c'est un article vraiment très très riche, hein, cet article sur les rapports des ouvriers du Nord à la politique matériau-lacunaire, mais pas si lacunaire que ça, il y a quand même beaucoup de choses dans ce texte. Et il invite notamment, enfin je trouve qu'on peut toujours le lire, il y a des choses qui sont encore très très stimulantes aujourd'hui pour travailler sur ces questions, et d'autres choses qui ont probablement pas mal évolué, et du coup on pourrait le lire aussi comme un témoignage situé dans le temps. Ce qui me semble toujours très très stimulant dans ce texte, c'est que bon tu ne l'as pas fait, mais enfin je suis d'accord avec ce que disait Cédric Lombat, c'est pas parce qu'on fait de l'ethnographie qu'on doit tout traiter, mais ce texte montre à quel point le clivage public privé, le fait que la politique ça serait différent du domestique, tout ça, ça tient pas tellement, il faut penser tout ça ensemble, et donc ça incite à faire ce que font certaines enquêtes, mais pas assez nombreuses, arriver à analyser les rapports à la politique, les formes de politisation, en lien aussi avec les pratiques domestiques, en lien évidemment avec la sociabilité, avec tout un ensemble de relations sociales qui se passent en dehors des institutions politiques, mais aussi avec la vie domestique. Et donc ça, je pense que c'est toujours une incitation qui gagne à être suivie, parce qu'elle ne l'est pas assez souvent, notamment donc dans ce texte à la fin tu incites à rentrer dans ce que tu appelles une boîte noire, donc la figure d'un ouvrier, enfin de l'ouvrier citoyen, ni abstentionniste ni militant, et on manque toujours de travaux sur cette figure là sur les rapports ordinaires à la politique dans les milieux populaires. Et ça permettrait de penser des choses qui aujourd'hui peut-être apparaîtraient moins clivées que ça ne l'est dans le texte. Donc dans le texte, il y a ces trois figures, l'abstentionnisme, le militantisme et l'ouvrier citoyen. Aujourd'hui, j'imagine que dans ce quartier, comme dans bien d'autres, la figure du militant a largement disparu. Donc ce pôle-là n'est plus tellement représenté. Il existe, hein, dans certains quartiers populaires, mais il est quand même très très minoritaire. Et là, du coup, on a ce que donnent à voir les enquêtes, ce qu'on a un petit peu, ce qu'on voit dans les monographies, dans l'enquête collective à laquelle on participe, mais ce qu'on voit dans plein d'autres enquêtes, c'est que les pratiques électorales ou le rapport à la politique, il est très difficile à décrire de manière cohérente. Et il faudrait qu'on se donne les moyens de comprendre des pratiques pour une même personne, on peut avoir de l'abstention, du vote à droite, du vote à gauche, du vote à l'extrême droite, bien sûr. Et donc ce texte, il est toujours très intéressant pour penser dans ce sens-là, et c'est vraiment ce qu'il faut faire pour arriver à penser comme des pratiques ordinaires, ce qui est présenté comme de l'extraordinaire. Toujours le vote pour le FN, notamment, dont parlait Annie, qui est quand même pas une pure vue de l'esprit, mais qui n'est pas, qui s'encase dans tout un ensemble d'autres pratiques et de formes de rapport à la politique qui pourraient paraître contradictoires et qui en pratique coexistent. Voilà, je voulais surtout dire ce mot rapide, et puis peut-être une petite question pour savoir si tu, comme tu es resté en contact avec quelques-uns des enquêtés, si je ne sais pas si ceux avec lesquels tu es en contact étaient militants ou adhérents, ou en tout cas sympathisants du PC, ou quoi, comment eux-mêmes ont évolué politiquement, et si tu étais intéressé aux évolutions de ce quartier et de la situation de tes enquêtés sous cet angle-là.
Merci. Non, mais de toute façon, en fait, malheureusement, là, non, mais je vais résoudre le problème de Nicolas, c'est qu'en fait, non, j'ai conservé trop peu de contacts pour pouvoir répondre à ta question, enfin cette question-là.
Il faudra lancer un doctorant sur le monde privé 30 ans après. Voilà, une suggestion méthodologique.
Alors, je vais profiter à la fois, je vais répondre à la fois à la question que vous posez et à la discussion que Olivier a entamée ici. La première chose qui me frappe, c'est d'abord, je pense que tu avais tout à fait raison sur la montée de ce que tu avais appelé l'individualisation, que tu appelles aujourd'hui peut-être l'hédonisme, et tu as surtout tout à fait raison quand tu le rapportes à des mobilités sociales, c'est-à-dire à des petites mobilités sociales vers le haut ou des formes de précarisation. Et ça me paraît une clé, en fait, à la fois pour ce que tu as vu et pour ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je vais dire rapidement, je pense que ce que tu as observé, c'est ce que nous avons observé aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, dans des milieux sociaux très différents, qui est ce qu'on appelle, quand on travaille là-dessus, une injonction à l'autonomie.